Bonjour à tous et à toutes, il est 18h et tout de suite c'est Première Page sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première Page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris. Dans ce 9e épisode, le roman est à l'honneur avec la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. Lorsqu'Atoko hérite de la papeterie de sa grand-mère décédée il y a peu, c'est une nouvelle vie qui commence pour la jeune écrivaine, rythmée de commandes insolites et de belles rencontres. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 9e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Et cela encore un peu faire l'enfant.
Au moment où j'écris cet édito, c'est le dernier jour de l'année. Si au moment de sa parution, l'épisode aura largement dépassé le réveillon, je me dois d'y faire référence, tant cela a joué dans le ressenti de cette lecture. J'ai terminé l'ouvrage d'aujourd'hui le 30 décembre très exactement, et comme tout ce qui s'achève à cette période, il garde une certaine symbolique. Le nouvel an marque pour moi la fin d'un cycle. Si l'année est déjà bien entamée et ne devrait pas être chamboulée sous prétexte que janvier débute, cette date incarne malgré tout un renouveau. On prend des bonnes résolutions, ou pas, certains font la fête, d'autres restent en famille ou ignorent tout bonnement l'événement. Pour moi, c'est une occasion de faire un petit bilan de l'année, où je vais, comment et pourquoi. Un peu anxiogène, je vous l'accorde. Heureusement, cette petite rétrospective est généralement camouflée par une semaine de vacances en famille, couvrant d'euphorie cette période un peu trouble. Mais cette année, une lecture a su apaiser mes réflexions personnelles, et je vous la présente aujourd'hui. Ce roman est ce que ma mère aime à nommer « une belle histoire de vie ». Pas besoin d'intrigues palpitantes, de rebondissements fous, mais d'un parcours de vie un peu atypique, juste deux ou trois personnages pour s'identifier, des anecdotes bien pensées, et c'est ainsi que l'œuvre révèle toute sa beauté. Le récit se déroule sur une année, au cours de laquelle nous suivons la vie de notre héroïne. Une vie rythmée par des rencontres improbables, des longues introspections personnelles, des beaux moments d'émotion et de poésie. Voilà finalement un bon résumé de ce que je vous souhaite à tous et à toutes pour cette nouvelle année. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. La papeterie de Tsubaki marque l'entrée du premier roman japonais dans ce podcast. Hormis un livre d'Haruki Murakami qui ne m'avait pas spécialement emballé, je connais très peu cette littérature. Ce qui me marque d'ailleurs dans un premier temps, c'est la traduction, que l'on doit ici à Myriam d'Artois-Aco. Si j'ai déjà lu un certain nombre de récits traduits de l'anglais, la traduction du japonais au français m'a tout d'abord dérangée. Je trouve les phrases courtes, plutôt plates, et je sens un réel décalage entre les propos et le manque de profondeur de la traduction. Couplé à des tournures de phrases souvent maladroites, le livre a failli me tomber des mains les premiers jours. Mais en réalité, c'est cette simplicité qui a fini par m'accrocher, rendant la lecture particulièrement rapide. J'ai donc fini par passer outre ce premier a priori et me suis projeté dans les mots, les descriptions, les sentiments des personnages, pour tenter de saisir au mieux la profondeur du récit. Mais c'est assez ironique de voir la langue japonaise pâtir d'une traduction française quand on sait que la papeterie de Tsubaki est justement consacrée à l'art de l'écriture, sa forme, sa symbolique, sa place dans la société. Né en 1973 à Yamagata, on doit ce livre à l'écrivaine japonaise Ito Ogawa. D'abord connue pour ses rédactions de chansons et ses illustrés pour les enfants, notre autrice n'en est pas à son premier roman. Elle rencontre un premier succès public et critique avec Le restaurant de l'amour retrouvé, qui sera d'ailleurs adapté sur grand écran. Sorti en 2016, La papeterie de Tsubaki est son quatrième ouvrage. Que ce soit à travers le parcours d'une jeune cuisinière en devenir, d'une grand-mère passionnée par les oiseaux ou d'une belle odyssée familiale, Ito Ogawa se spécialise dans les romans de vie portés par des personnages féminins variés et attachants. Ici, la romancière met en avant une jeune femme solitaire qui, malgré un passé un peu chaotique, trouvera finalement sa voie dans l'écriture. La papeterie de Tsubaki, ça parle de quoi ? C'est l'histoire de Atoko, jeune femme de 25 ans vivant seule dans un petit appartement dans la ville de Kamakura, au sud de Tokyo. Elle réside au-dessus d'une papeterie dont elle a la charge depuis la disparition de sa grand-mère, la papeterie Tsubaki. L'aînée, comme elle l'appelle, est sa seule famille. En effet, notre héroïne ne connaît pas ses parents et semble depuis vivre en vase clos. Tous deux ont des rapports particulièrement conflictuels. Dès son plus jeune âge, Atoko est conditionnée par sa grand-mère à l'art de la calligraphie qui en fait une priorité absolue dans son éducation, quitte à priver l'enfant de sa jeunesse. Si leur relation se détériore particulièrement à l'adolescence, notre écrivaine en herbe finit par couper les ponts et ne retournera pas à Kamakura avant le décès de son aïeul. La jeune femme n'hérite pas seulement de la boutique, mais également d'une activité secondaire d'écrivaine publique. Ce travail ancestral consiste à rédiger des lettres, des actes, pour ceux qui ne savent pas écrire ou qui maîtrisent mal l'écrit. Lettres d'amour, de rupture, missives professionnelles, avis de décès, Atoko enchaîne les commandes tout au long de l'année sur laquelle se déroule le roman. Chaque chapitre correspond à une saison et les anecdotes s'enchaînent au fil des clients qui passent la porte de cette papeterie peu ordinaire. En parallèle de ces commandes, toujours préparées avec grande précision en s'adaptant aux requêtes de chacun et chacune, la jeune écrivaine démêle son passé, ses doutes, ses ressentis. Le deuil, l'amour, l'amitié sont autant de questionnements traités avec poésie et finesse. Chaque anecdote prétend à la réflexion sur notre rapport à autrui et à nous-mêmes. Au fil des commandes, la jeune femme évolue et fait un certain nombre de rencontres, s'entourant peu à peu de différents personnages atypiques, entrant en collision, plus ou moins malgré eux, par le biais de ce marché tout à fait intrigant. Le roman offre un large spectre de l'écriture japonaise et est riche en informations sur les différents caractères, leur symbolique, quel support, quelle plume utiliser, comment et pourquoi. L'autrice allant jusqu'à décrire les différents types d'encre. Chaque anecdote se conclut d'ailleurs par le texte rédigé par notre héroïne, puis par une photographie de la lettre manuscrite, mais cette fois dans sa langue d'origine. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Déjà, pour la découverte du travail d'écrivaine publique. Je ne connaissais pas ce concept de commander une lettre et encore moins son aspect lucratif. Je constate d'ailleurs, en préparant cet épisode, qu'il existe en France des formations professionnelles dans cette branche. Mais bon, je vous rassure, on est loin de la reconversion. Tout l'intérêt de ce métier est tout de même source de controverses et rappelle toute l'ambivalence de confier cette tâche relevant normalement de l'intimité à une parfaite inconnue. Certains clients viennent d'ailleurs tout penauds consulter Atoko par honte de leur propre écriture ou de ne pas avoir eu le courage de transcrire eux-mêmes leurs sentiments. Mais l'autrice fait toujours primer l'importance de l'intention sur la beauté du geste et insiste d'ailleurs particulièrement sur le soulagement des commanditaires une fois la lettre manuscrite entre leurs mains. De plus, si l'on s'attarde sur les commandes individuellement et la complexité de certaines situations familiales, amicales, je trouve émouvant de voir notre héroïne parvenir à démêler des situations complexes, de deuil, de rupture, tout en ayant de réelles difficultés à délier ce qu'elle conserve en elle. Ce métier s'apparente alors à une étape initiatique. En effet, on suit en parallèle de son activité son cheminement personnel concernant son passé, son enfance et les conséquences du deuil sur son rapport à sa propre famille. Atoko, ayant jusqu'à maintenant subi cette vocation, prend finalement au cours de l'histoire confiance en elle et en ses capacités. Elle découvre la vraie beauté et les enjeux de sa profession, trouvant enfin un sens à tout ça. J'ai également trouvé très intéressant la place centrale donnée à l'écriture. L'ouvrage est riche en informations et s'avère très instructif. Dans la calligraphie, les détails sont partout. Choisir une peau en guise de parchemin pour s'adresser à un individu auquel on doit le respect, dissoudre davantage l'encre pour donner à certains endroits l'impression que l'expéditeur a versé quelques larmes, l'écriture est une mise en scène et entre au service des rapports humains quand la parole ne suffit plus. L'œuvre telle qu'elle est conçue permet de se reconnecter avec l'importance des mots, la précision avec laquelle ils doivent être choisis, comment les employer et à qui les adresser. Dans le livre, les lettres finales sont toujours très intéressantes et les méthodes utilisées sont surprenantes, offrant un art du détail particulièrement satisfaisant. Je pense notamment à une lettre rédigée par notre héroïne dans le cadre d'une rupture amicale. La femme qui vient prendre commande souhaite couper les ponts avec l'une de ses meilleures amies, qu'elle accuse de trahison. Atoko, d'abord réticente, accepte finalement d'écrire cette lettre, mais souhaite malgré tout mettre en avant toute la contradiction entre la rancune qui oppose les deux amies et les bons moments passés. Elle rédige donc une missive assez violente, mais fait le choix d'une écriture en miroir. Les caractères sont donc inversés, conservant symboliquement une certaine dualité et une nuance. À l'image des autres lettres, on comprend assez vite dans l'ouvrage que chaque démarche épistolaire est profondément codifiée et répond à une tradition bien ancrée. D'ailleurs, pour revenir sur cette question, la tradition japonaise occupe une place centrale dans l'œuvre. J'ai été souvent déstabilisée par les liens entre les personnages. Les formules de politesse dans les lettres, l'adaptation à l'âge, à la position sociale, et cela sur le papier, mais également dans les rencontres du quotidien. Je ne sais pas si cela a été exacerbé par la traduction, mais j'ai été surprise par certaines interactions, avec l'apparition de plusieurs rapports de force, des protagonistes, parfois franchement désagréables, auxquels on ne s'oppose pas, ou encore la naissance de relations vraiment inattendues. Je mets ce décalage sur le compte de la traduction et d'une approche culturelle différente de la mienne. Mais s'il m'est arrivé d'être irritée par certains dialogues, j'ai en général réellement apprécié la manière dont les personnages interagissent entre eux. Enfin, et c'est sûrement ce qui a rendu cette lecture si agréable, l'histoire est apaisante. Malgré les émotions fortes qui traversent notre héroïne et ses différents clients, les lieux, les thématiques sont infiniment poétiques et prêtes à réflexion. Cette simplicité, cette ambiance paisible, je la retrouve dans certains Ghibli, que j'aime tout particulièrement. Je pense notamment au dessin animé « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki, qui pour moi s'accorde le plus à l'ambiance du livre. Le réalisateur nous dépeint une famille qui évolue le temps d'un été dans une grande maison entourée de rizières. Si le conte pour enfants conserve une grande part de fantastique, je retrouve dans ce roman, plus ancré dans la réalité, la même sensibilité à la nature, à la famille et au plaisir simple. Librairie, salon de thé sont autant de lieux conviviaux dans lesquels on se sent bien. Lire ce roman, c'est pousser la porte de cette petite papeterie, s'asseoir à une table, boire un thé et regarder par la fenêtre les gens passer. C'était un extrait de Holocène de Bon Hiver. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour porte sur le roman La papeterie de Tsubaki de Ito Ogawa. Enfin, j'ai aimé ce roman pour la sensibilité de notre héroïne. Atoko incarne à merveille cette profession si singulière. Elle parvient à transcrire par écrit et par de longues réflexions personnelles ce que ressentent et souhaitent exprimer ses commanditaires, même si leurs problématiques lui sont parfois étrangères. Elle vise toujours juste et doit ce succès à son écoute, notamment lors de la dégustation de thé traditionnel qu'elle partage avec chaque client lors de leur première visite dans la papeterie. Elle est attentive, prévoyante, tout en maintenant une certaine distance, ce qui offre des productions épistolaires authentiques et riches en émotions. En réalité, ce roman nous donnerait presque envie d'écrire de nouveau. L'orthographe n'étant pas mon fort, j'avoue m'être vite détournée de l'art épistolaire. Mais je trouve toujours très chouette de recevoir des cartes postales ou des petits mots pour certaines occasions. Mais au-delà d'une simple question d'écriture, l'autrice retranscrit très bien la complexité des rapports humains et la nécessité de maintenir la communication, même si c'est parfois pour la dernière fois. Elle décrit à merveille la bascule permanente entre les moments de rencontre et les instants de solitude de notre héroïne, offrant un personnage intéressant et bien construit. Atoko donne envie de passer du temps face à soi-même, de s'accorder des moments de calme, de tranquillité. Si cette dernière fait de nombreuses rencontres, elle reste malgré tout seule dans son petit appartement et cela semble lui être particulièrement bénéfique. La jeune écrivaine s'entoure de quelques amies toutes différentes par leur caractère, leurs âges, leur parcours. Le roman offre une belle image de l'amitié, non plus dans la quantité mais dans la qualité, et privilégie des moments simples de retrouvailles autour d'un pique-nique, d'une visite de temple ou encore d'un atelier cuisine. Si mon sentimentalisme est sûrement exacerbé par les fêtes de fin d'année et ma chance pour l'occasion d'être entourée de mes proches, je trouve que ce roman donne envie de partager de beaux moments avec les gens qui nous sont chers. Et rien que pour ça, je ne peux que vous le recommander. Pour rester en immersion dans cet univers, je recommande « Mémoire d'un chat » de Hiro Arikawa, roman paru en 2012, Les Dames de Kimoto, bande dessinée de Cyril Bonin, sortie en 2022, adaptée du roman éponyme de Sawako Ariyoshi, et enfin Les Délices de Tokyo, film réalisé par Naomi Kawase, sorti en 2015. C'était le 9e épisode de Première Page, rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.